Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est un spectacle qui a la beauté du mal. Une mise en scène à l'esthétique léchée et chorégraphiée qui sonne comme une lecture très noire et même oppressante de l'une des célèbres pièces de Shakespeare, la pièce écossaise, la pièce maudite, dit-on. En resserrant son adaptation sur les personnages principaux, la metteuse en scène italienne Silvia Costa, habituée des productions théâtrales et lyriques de Romeo Castellucci, nous entraîne dans une atmosphère inquiétante et dans le tourbillon infernal de la folie du pouvoir qui se meut en folie meurtrière, puis en folie de la culpabilité d'un couple régicide. Macbeth, avec la troupe de la Comédie Française et notamment Julie Sicard et Noam Morgenstern, vous donne rendez-vous salle Richelieu jusqu'au 20 juillet et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Silvia Costa.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous d'Amsterdam aux Pays-Bas. Bonjour à vous aussi Julie Sicard.
Bonjour.
Et Noam Morgenstern.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. C'est la deuxième fois, Silvia Costa, que vous présentez un spectacle avec la troupe de la Comédie Française. La première fois, c'était un spectacle plutôt intimiste, un mémoire de fille, d'après Annie Ernaux. C'était au théâtre du Vieux Colombier. Et voici donc Macbeth, spectacle beaucoup moins intime dans la grande salle, la prestigieuse salle Richelieu, du Shakespeare. Et pas n'importe quel Shakespeare. Pourquoi avez-vous choisi Macbeth ?
Je pense qu'il avait le dernier bon de Macbeth qui m'intéressait. C'était surtout la question de la présence du surnaturel qui crée une confusion dans l'interprétation des symboles et les sœurs fatales des livres à Macbeth. Et après, j'étais fascinée par cette couple stérile qui n'a pas d'enfant et cette stérilité connectée à la course au pouvoir. Donc je pense que c'était ces deux éléments qui m'ont dit, qui m'ont fasciné, ils m'ont fait dire, allez, on y va, on aborde cette pièce.
Alors le couple et le surnaturel, c'est intéressant qu'on commence par le surnaturel parce que Macbeth est aussi une pièce entourée de superstitions, c'est même la pièce maudite hein, dont il faut se garder, dit-on, de prononcer le nom sur certaines scènes de théâtre. Cette réputation-là, elle s'est insinuée dans les coulisses de la Comédie Française, Julie Sicard
On la connaît l'histoire et en même temps on la connaît pas. Alors moi depuis j'ai missionné des gens qui m'ont fait un petit récapitulatif de toutes les malédictions qu'on traînait autour de cette pièce. Je suis pas superstitieuse ou alors j'aime être superstitieuse donc tout ça ne me dérange pas beaucoup. Et là on se rend compte qu'en plus pour l'instant, tout se passe bien.
Ça se passe bien. Pour l'instant, pas de drame. Alors, c'est vous qui jouez le rôle-titre, Noam Morgenstern. Est-ce que vous pouvez nous présenter Macbeth au début de l'intrigue ?
Début de l'intrigue, Macbeth est un soldat, guerrier, dont le talon d'Achille est de ne pas avoir d'enfant. C'est une pièce qui a été écrite au XVIe siècle, mais qui se situe au XIe siècle. Et à cette période-là, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de descendants, ne pas avoir de filiation, ne pas avoir la déclinaison de son propre visage, c'est être en grande fragilité. C'est surtout ne pas avoir quelqu'un qui nous attend après la guerre, ne pas avoir quelqu'un à qui on va donner la terre récupérée après les massacres. Et donc au début de l'intrigue, Macbeth revient. Vainqueur d'un territoire.
Donc c'est un général qui s'est couvert de gloire, qui a montré son courage, sa bravoure.
Oui, mais finalement tout ça, c'est, je veux dire, la version de Silvia Costa, comme elle s'axe autour de 8 personnages, finalement la guerre a été, ou le côté guerrier, il a été assez éludé. Le plus important, je trouve, ce qui a été... Le zoom qui est fait, c'est, donc, comme disait Silvia, sur la stérilité de ce couple, sur donc, leur fragilité. Et donc, à ce moment-là, comment affirmer un certain pouvoir dans ce monde-là et comment affirmer une solidité du couple qui n'a pas d'enfant. Et donc, le début du spectacle commence avec la rencontre des sœurs fatales, les sœurs fatales, c'est-à-dire 3 sorcières, des prédicatrices qui donc informent Macbeth en l'appelant du nom de son titre parce qu'il a perdu son père, il a eu un titre et de son prochain titre et même de la prédication du fait qu'il va devenir roi, ce qui est donc déroutant, puisque se faire entendre de la part de quelqu'un d'autre un secret et un désir énorme, c'est toujours très perturbant. Et c'est là le piège qui s'ouvre et qui commence, c'est que Macbeth, il y a une réplique géniale qui est à un moment assez tôt dans la pièce, qui est « Peut-être si le sort veut me faire roi, me couronnera-t-il sans que j'aie à faire ?» Et malheureusement, il va absolument pas écouter ce qu'il s'est dit à lui-même et il va tout faire pour devancer
la prophétie,
et c'est là l'écueil.
Alors Macbeth est comte de Glamis, il sera baron de Cawdor et il sera roi. C'est donc, pour résumer, voilà, très simplement, la prophétie de ces sœurs fatales. Donc trois sorcières vêtues de noir, jouées par Jennifer Decker, Suliane Brahim et Biran Barr en alternance avec Julien Frison. Alors ces trois sorcières, Sylvia Costa, ce sont un peu les vrais architectes de l'intrigue, hein, les forces motrices de l'action. C'est vraiment cette prophétie qui va tout déclencher. Alors le texte original, sauf erreur de ma part, commence justement par les sorcières. Vous avez choisi de faire démarrer la pièce par un monologue, le monologue de Lady Macbeth. C'est donc par elle que les spectateurs entrent dans l'histoire et apprennent l'existence de cette prophétie. Pourquoi avez-vous voulu commencer par Lady Macbeth?
Parce que je voulais faire comprendre tout de suite aux spectateurs comment ces deux personnages s'intègrent l'un l'autre. Donc en fait, cette lettre, elle est écrite par Macbeth. Et c'est Lady Macbeth qui la lit. Donc en fait, c'était pour moi déjà superposer ces deux personnages l'un avec l'autre et quand même commencer en effet en délivrant la prophétie. Donc cette rencontre avec le sœur fatal. On a décidé comme choix de ne pas les appeler sorcières, mais vraiment la traduction de l'anglais correct. Donc The Weird Sister et les sœurs fatales. C'est aussi on peut se libérer de cette mot sorcière. Qui déclenche beaucoup d'autres niveaux et aussi concepts qui aujourd'hui sont plus acceptables. Donc on a fait ce choix. Et moi, dans l'adaptation que j'ai faite, quand même, les sœurs fatales sont très présentes. Elles ne sont pas seulement très présentes surtout dans le chadron à faire des prophéties ou des potions magiques, mais elles incarnent plusieurs personnages. Ils font avancer la narration. Ils amènent des messages à Macbeth et sont vraiment ce que je pourrais appeler les coordonnées du mal, les coordonnées de l'espace. Et donc, elles sont vraiment toujours ancrées à chaque scène dans les décors, dans l'espace. Et ils sont des compagnes, en fait, de tous les personnages. Parce qu'ils accompagnent Macbeth, mais ils accompagnent Macduff, ils accompagnent Lady Macbeth. Donc en fait, ils sont vraiment une émanation de la psyché de chaque personnage.
Oui, d'ailleurs, dans cette première scène, Julie Sicard, où vous apparaissez vraiment sur scène, c'est vraiment avec vous, encore une fois, que le spectateur entre dans le spectacle, on se dit, au fond, visuellement parlant, bah, la quatrième sorcière, c'est vous. La quatrième sœur fatale, c'est vous. C'est comme ça que vous avez ressenti, ouais, justement, cette entrée en matière.
Oui, je crois qu'il y avait le désir, en effet, de créer une sororité entre Lady Macbeth et les sorcières, savoir est-ce que Lady Macbeth invoque les sorcières ou est-ce que, enfin, quel moment on agit quand on est agi et comment tout ça est une histoire de complémentarité, quoi.
Alors, ça passe en particulier par vos cheveux, on va pas raconter tout, mais enfin, il y a une forme de tourbillon, hein, du destin qui s'enclenche à travers les trois sorcières et à travers le personnage de Lady Macbeth. Il y a vraiment plein d'idées de mise en scène, il y a une machinerie qui impose tout de suite aussi cette idée de tourbillon. On est vraiment dans une machine infernale, hein, actionnée d'ailleurs par les sœurs fatales. C'est à la fois très fort, très puissant, très beau aussi d'entrée de jeu, Sylvia Costa. Est-ce qu'il y a pour vous une esthétique du mal et une esthétique de la folie?
Alors, c'est sûr que la choix chromatique, elle fait comprendre aux spectateurs un caractère de personnage. Donc, la plupart sont habillés en noir. Il y a un côté, un style qui s'inspire au costume clérical. Mais je pense que personne entre le public croit en un temps que Macbeth est un prêtre. Mais pour moi, c'était important de donner cette connotation. Et après, par exemple, Megdaf, qui je représente un peu comme une sorte de messia salvateur, il a le sol en blanc. Et donc, en fait, il y a vraiment une dichotomie entre ces deux couleurs, donc vraiment le blanc et le noir. Et le rouge qui traverse comme connexion ces deux oppositions, ces deux couleurs opposées. Et donc, le costume et le décor, en effet, il s'inspire dans cette sorte de monde clérical, une sorte d'église gothique très austère et sombre, où les personnages sont mis en lumière comme dans des îles, comme dans des îles de lumière à chaque fois.
Tout de suite, vous me répondez couleur, vous me répondez ombre, vous me répondez lumière. On a vraiment l'impression que chaque scène est un tableau au sens chorégraphique et au sens pictural en même temps. Est-ce que la peinture vous a inspiré pour mettre en scène cette pièce ?
La peinture m'inspire toujours, pas spécifiquement dans cette pièce, mais oui, je regarde. Comme italienne, j'ai au plus la chance d'avoir... vous, et je continue à voir beaucoup de peintures dans les églises, dans les musées. Donc c'était toujours pour moi une source d'inspiration, surtout sur la gestualité, sur la composition des corps dans l'espace.
C'est-à-dire et, que vous raisonnez aussi bien en metteuse en scène qu'en chorégraphe.
Alors oui, je ne m'appelle pas chorégraphe, mais c'est vrai que la gestualité, c'est un élément très important pour coûter la présence des corps sur scène. Julie et Noam pourraient dire plus, mais par exemple pour... pour Noam, surtout, on a regardé beaucoup la gestualité des mains. D'ailleurs, c'est aussi une proposition de Noam de regarder vraiment tous les signes qui pouvaient être délivrés comme une sorte de code qui était aussi quelque chose qui était utilisé à l'époque de Shakespeare. Donc, en fait, on était très philologique sur cela. En tout cas, à chaque spectacle, je cherche un code, comment dire, une esthétique aussi du geste. Donc là, par exemple, j'avais la possibilité d'avoir trois corps. Donc le cercle fatal, pour moi, c'était une chance énorme de chorégraphier trois corps ensemble d'une façon presque géométrique. Et après, à chaque personnage, on a quand même... on avait l'interprétation du texte, de qu'est-ce que chacun est en train de dire, mais aussi comment le corps va être, dans quel état le corps va être à chaque scène. Et c'est vrai que la pièce... en soi, originale, elle change d'espace en continuation. Donc moi, même si j'ai adapté, j'avais cette fragmentation des situations qui on a transformé dans des entrées, des sorties, dans cette église. Mais donc, j'avoue que je suis d'accord avec vous que chaque scène, c'est un tableau. Donc, on ouvre une porte, on rentre et on déclenche l'image.
C'est intéressant, Noam Morgenstern, cette question des mains, parce que c'est vrai que d'un bout à l'autre, mais particulièrement, je trouve dans la première partie du spectacle, vous jouez énormément avec vos mains, donc des mains blanches qui dépassent effectivement du costume très noir. On a vraiment l'impression que vous avez des mains absolument énormes, quoi. C'est un effet d'ombre et de lumière ?
Sans doute. Est-ce que ma pensée étire mes doigts ? Je ne sais pas. En tout cas, si je... pour aller au bout de l'image, je réfléchis... jusqu'au bout des mains. C'était une chose qui nous a tout de suite intéressé avec Sylvia parce que à l'époque de quand les pièces de Shakespeare étaient données du temps de Shakespeare, il y avait ce code en plus, c'est-à-dire il y a une chose très intéressante où le public bourgeois était derrière le décor et écoutait la pièce. C'est-à-dire le public qui souhaitait ne pas se montrer et qui pouvait avoir les places les plus chères se trouvait derrière le décor et donc à l'oreille pouvait savoir de quelle couche de la société était en train de parler le personnage qu'on entendait. Et ce à quoi le public avait accès, c'était donc des personnages avec un code gestuel en plus d'une langue très spécifique qui pouvait nous renseigner de quel lieu, de quel pays, de quelle ville et de quelle couche sociale. Et avec ce langage de main, moi, c'est quelque chose qui m'a souvent intéressé, c'est-à-dire comment une parole jouée et choisie, la façon dont elle va être donnée, comment les mains disent ou le contraire, ou agrémente, ou emporte ailleurs, ou souligne. Et donc, il y a comme un double, triple, quadruple langage dont le public est conscient, auquel il a accès. Donc, il y a une espèce de secret sous-jacent, alors que sur scène, il se passe une chose dont les personnages, eux, n'ont pas conscience. Donc les mains sont un peu la boîte de Pandore ouverte et axée pour le public. Et on a donc travaillé avec un livre comme ça qui s'appelle Les gestes chez Shakespeare et d'autres gestes aussi qui sont de la même époque, issus du monde politique, pour montrer, pointer, choisir, dénoncer, voter, unir, rassembler, déchirer, mentir, accrocher, enfin, tout ce vocabulaire de gestes. Et ça donne énormément de relief à ce qui est dit, à ce qui est joué. Et ça ajoute une intelligence. Là où on pourrait croire que c'est simplement de l'étrangeté, moi je trouve que ça... Et vous parliez justement de ce... Déjà, ça dessine encore plus ce monde, parce que Sylvia le dit, c'est dans un monde clérical au début, donc une chose nette, austère. Oui, c'est ça, très dessiné. C'est une chose qu'on a besoin de donner dans tout son dessin parfait pour l'exploser plus tard. Et les gestes participent de ça, de ces gestes, de la netteté de ces gestes.
Alors, il y a les gestes, il y a les décors, il y a les costumes, il y a les jeux d'ombre et de lumière. Il y a cet anneau, cette couronne géante de 4 mètres de diamètre suspendue au cintre qui descend jusqu'au couple Macbeth. Il y a ce que l'on voit, il y a aussi l'ambiance sonore de la pièce qui peu à peu monte et qui installe très vite, Sylvia Costa, un caractère assez anxiogène. Il y a des bruits de pluie, d'orage, parfois il y a même ce qui ressemble un peu à des parasites. Le son devait dans cette pièce avoir une place centrale.
Oui, pour moi Macbeth c'était du début une pièce sonore. Je pense que cette dimension sonore était donnée par le fait qu'on parle d'une oscillation. Et donc souvent, quand je pense à ce qu'il y a dedans la tête, c'est un son, c'est des voix qui circulent dans le cerveau, dans l'esprit d'une personne. Et donc je fais appel à un collaborateur depuis longtemps, Nicolas Rassi. Et avec Nicolas, on a travaillé sur l'idée de chambre. Donc parfois, le spectateur peut avoir presque l'impression d'utiliser des field recordings. Donc en fait, vraiment des sons d'ambiance. Mais en fait, c'est tout reconstruit. Et ça, c'était en effet pour donner une tension, comme un bruit un soudain, ou quelque chose qui constamment est là et quelqu'un se rend compte qu'il est là après un moment. Et après, il y a quand même, pour la sculpture du temps, des moments qui sont complètement composés et construits. Et il y a aussi un travail sur les voix. Parfois, la voix se détache des corps des comédiens. Par exemple, au moment des traumas de Macbeth, son cri, il a détaché de son corps. Donc c'était le son m'a aidé à amplifier la dimension hallucinatoire et des cauchemars que cette pièce pouvait déclencher. Et en tout cas, j'avais aussi cette idée que parfois on a l'impression qu'un son arrive de derrière, tout le temps, et donc il y a une grande spatialisation du son de la salle.
MDN sur RFI autour du spectacle Macbeth d'après William Shakespeare à l'affiche de la Comédie Française Salle Richelieu jusqu'au 20 juillet, avec nous en ligne la metteuse en scène Sylvia Costa et en studio les comédiens Noam Morgenstern et Julie Sicard qui jouent respectivement le général et Lady Macbeth. Dans le monologue de Lady Macbeth qu'on a évoqué tout à l'heure et qui ouvre la pièce, elle réfléchit à l'avenir de son mari qu'elle juge trop honnête, trop timoré à prendre le pouvoir et ainsi à tenter de devancer la prédiction de ses fameuses sœurs fatales. Et de fait, il hésite, il est fébrile, il s'en ouvre même à Branco, l'autre général, dont les sœurs fatales ont aussi prédit que les enfants monteraient sur le trône, alors que le couple Macbeth, comme on disait tout à l'heure, lui, n'a pas d'enfants. Et dans cet extrait, Noam Morgenstern, c'est Clément Bresson qui joue Branco et qui vous donne la réplique.
Glamis, et baron de Cawdor, le meilleur reste à venir. Merci pour votre peine. N'allez-vous pas espérer que vos enfants seront rois ? Celles qui m'ont salué du nom de Codor ne leur ont promis rien de moins.
Plus que le titre de Codor, c'est la couronne qui risque de vous enflammer si vous prenez trop au sérieux ces choses. Oui, c'est étrange! Mais bien des fois, les forces des ténèbres, pour nous gagner à notre propre perte, disent le vrai d'abord, savent nous gagner avec des bribes de franchise, et c'est nous trahir de façon d'autant plus profonde.
Déjà, deux vérités dans ce qu'on a dit. C'est un prélude heureux pour l'orchestration de mon thème royal. Cette visite surnaturelle ne peut venir du diable. Ami du ciel, du diable. Mais alors, comment m'expliquer? C'est un acompte sur le succès, un commencement qui se révèle vrai, car je suis Codor. Du ciel? Et pourquoi alors puis-je me laisser envahir par cette hantise dont l'insinuation abominable fait se dresser mes cheveux et cogner mon cœur, pourtant solide, contre mes côtes comme jamais encore? Certes, la peur vécue est moindre que l'horreur qu'on imagine. Et ces pensées qui ne font pour l'instant que rêver le meurtre secouent déjà si fort l'unité de mon être. Rien qu'à en former ces images, et que rien n'est pour elles sinon cela qui n'est pas.
Notre compagnon est comme en extase.
Peut-être, si le sort veut me faire roi, me couronnera-t-il sans que j'aie affaire.
Il ne se fera qu'à l'usage, à ses honneurs, qui soudain lui échoient, comme un vêtement neuf et qui gêne encore.
Advienne que pourra. On peut survivre aux heures les plus sombres.
Noam Morgenstern, dans quelle mesure l'ambition, l'hubris, pourrait-on dire, constitue-t-il un carburant pour Macbeth?
Intéressant, je dirais au contraire que son carburant, c'est de contre-argumenter ce que Lady Macbeth pense que devrait être son ambition.
Il se positionne par rapport à Lady Macbeth.
Alors absolument, et dans la version de Sylvia Costa, il y a quelque chose qui pourrait paraître assez déroutant, c'est qu'on va, rencontrer un Macbeth, une figure de Macbeth, qui n'est pas justement ce guerrier massif. Dans la pièce, Macbeth a très peur des apparitions. Il a très peur des fantômes. Il y croit tout de suite. Ça, c'est dans la pièce. Et dans ce qu'a ajouté Sylvia en faisant de Lady Macbeth une quatrième sorcière, elle est déjà motrice dans la pièce de tout ce que Macbeth devrait faire et agir et trouver en lui de la force pour tuer le roi, pour prendre le pouvoir. Mais il est encore plus fragile parce que il passe son temps à dire qu'il va y arriver, qu'il va le faire, mais dès qu'on a le dos tourné, il perd ses moyens et il se gargarise de tous les contre-arguments. Et donc on a affaire à donc son carburant, c'est comment faire trois pas en arrière et non pas deux pas en avant.
Julie Sicard, est-ce que vous diriez que les deux personnages sont complémentaires? Est-ce qu'on peut dire que Lady Macbeth est le cerveau et que Macbeth est le bras, même si c'est lui finalement qui monte sur le trône?
Oui, mais je dirais même que dans la lecture qu'en fait Sylvia Costa, c'est encore plus complexe que ça, dans le sens où elle a une lecture psychanalytique du couple et donc elle en fait un seul personnage, finalement, comme un personnage à deux têtes, un couple qui vit de manque, qui vit donc de désir, et qui est comme, comment ça s'appelle, les vases communicants,
ouais.
C'est-à-dire ce qu'elle a, lui n'a pas, ce qu'il a, elle ne l'a pas, et ils sont comme ça, elle dans le désir, dans le projet, et lui dans la conséquence du projet. finalement, la chose même, l'acte, n'est pas l'événement. L'événement sera plutôt comment y aller. Et ça, c'est elle qui l'emmène vers le crime, qui va les compléter, puisque c'est un couple donc stérile, donc incomplet, donc qui n'arrive pas à se finir quelque part et qui se finira dans le crime. Et au moment où le désir est assouvi, comme tout bon psychanophile le sait, voilà, quand le désir est là, le bonheur n'y est pas, et qu'il va falloir repartir dans un autre désir, donc repartir dans le... Donc Macbeth lui va continuer sa route vers le mal quand elle va finalement avoir épuisé sa force en le remplissant de force.
C'est intéressant cette image des vases communicants, Sylvia Costa. Il y a un moment très fort d'ailleurs où les deux personnages sont très proches, de profil, bouche contre bouche, pas du tout pour un baiser traditionnel. Hein. Comment est né ce moment-là, cette image-là, Sylvia Costa?
En fait, normalement, cette scène, c'est un monologue de Lady Macbeth. Et moi, je pensais que ces mots devaient être vraiment... dites dans la bouche de Macbeth, comme si c'est Lady Macbeth qui donne la parole à Macbeth. D'ailleurs, souvent, j'ai inversé les textes. Lady Macbeth prend la parole souvent. Elle parle, par exemple, au meurtrier, là où c'était Macbeth qui le faisait. Donc, en fait, j'ai forcé la main pour faire comprendre comment Lady Macbeth manipule Macbeth vers cette meurtre. Mais pas parce que c'est un autre personnage, mais justement parce que c'est la partie de son cerveau qui fait agir Macbeth. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'est-ce que disait Julie, à chaque fois que Macbeth manque de quelque chose, qu'il soit la force ou qu'il soit la chute psychique, c'est elle qui prend en charge. Donc voilà, disons que la façon dont j'ai édité le texte, c'était pour fausser cette force que j'ai aperçue dans le spectacle, dans la pièce.
Mais ouais. C'est vrai qu'ils sont mariés et femmes, Julie Sicard, mais à certains moments, on a presque l'impression que Lady Macbeth est la mère du général. Je ne sais pas si c'est elle qui prend l'ascendant ou si c'est lui qui régresse.
Bah, je pense qu'on joue sur tous les tableaux, parce qu'en effet, on développe aussi un côté maternel de bah, toute façon, cette histoire de maternité, on a construit...
La maternité et la stérilité.
Couple, voilà, on a construit ce couple autour de ce manque, etc. Donc la maternité devient un peu, pas perverse, mais devient aussi une façon d'agir les uns sur les autres, comme on pourrait parler aussi de gémilité d'un frère et d'une sœur aussi. Enfin, ils sont... Un couple sans enfants, finalement, devient un couple... tous les couples fantasmés, tous les couples de... Donc, dont tous les rapports sont possibles et qu'on peut investir. Quoi.
Les nuages s'amoncellent, la tempête se prépare.
Sur les doigts, la lune masquée, on se lance dans...
Je n'ai pas peur si tu es là. Le vent nous porte, on s'envole. Magnifique.
Le vent nous porte.
Los Magnificos M et Arthur H dans VMDN sur RFI, une émission autour du spectacle Macbeth d'après Shakespeare, avec la metteuse en scène Sylvia Costa et les comédiens Julie Sicard et Noah Morgenstern de la Comédie Française. Spectacle à l'affiche jusqu'au 20 juillet, salle Richelieu à Paris. Alors vous le disiez tout à l'heure, Sylvia Costa, Macbeth et Lady Macbeth sont habillés tout en noir, un peu comme des prêtres. Le rouge s'insinue peu à peu dans la mise en scène, suite évidemment aux différents crimes perpétrés ou commandités par les deux personnages, un peu comme le sang qui se répand. Et ce meurtre aboutit à une forme de folie, Noam Morgenstern. Est-ce que la folie du personnage, c'est l'émanation de sa culpabilité, l'émanation de sa conscience ?
Je pense que sa folie, elle vient du fait de croire. Comme les enfants croient aux apparitions, aux fantômes, aux hallucinations, et de pas arriver à faire la différence entre une vision et la réalité. Alors, j'ai l'impression que c'est, en tout cas, la façon dont je le traverse. Et comment Sylvia l'a mis en scène, c'est ce qui fait plus peur à Macbeth que le fait de passer à l'acte du crime. Je ne sais pas, j'ai jamais commis de crime, mais le premier est la porte ouverte à tous les autres. Après, ça n'est qu'une espèce de
déferlante. Un engrenage fatal.
Voilà, un engrenage fatal. Mais la folie, non, la folie, c'est perdre pied sur la réalité. C'est se faire entourer de, à ce moment-là, on ne sait plus si soi-même on est un fantôme, est-ce qu'on en devient, est-ce qu'on est une apparition, est-ce que les gens tués reviennent, et s'ils reviennent, alors ils nous dénoncent, et s'ils nous dénoncent, qu'est-ce qu'on devient nous après, est-ce qu'on devient aussi fantôme, est-ce qu'il y a ce déracinement, cet arrachage comme ça du monde réel. Et moi, je trouve que la folie, en tout cas, la folie dans ce confessionnal, puisque c'est un confessionnal.
Oui,
donc,
c'est-à-dire que le château de Dunsinane est transformé en église gothique et donc en confessionnal. Et c'est autour de ce confessionnal-là que se déroule justement la grande scène des hallucinations de Macbeth.
Oui, où on a l'habitude de voir plutôt un banquet et de voir de part et d'autre du banquet Lady Macbeth et Macbeth. Là, tout est fait dans un confessionnal. Donc l'espace est réduit, les apparitions sont plus fulgurantes, tout est ramassé. Donc sans doute beaucoup plus électrique. Je ne sais pas, mais que si on avait eu l'immensité d'un banquet et puis le faste, non, pas du tout. Là, il y a quelque chose assez halos, austère, et encore dans la fin aussi de ce monde clérical, puisque tout se passe dans ce petit monastère.
Arrière ! Que la terre te cache ! Car tes os sont sans moelle ! Ton sang est froid, il n'y a pas de pensée dans ce regard que jette sur moi tes yeux.
Soit sanguinaire, soit téméraire, soit résolu. Guéris-toi du pouvoir de l'homme, méprise-le. Aucun être né d'une femme ne peut rien contre toi, Macbeth.
Alors existe, Macduff, qu'ai-je besoin de te craindre ? Tout de même, mieux vaut prendre double assurance et prendre sur le sort une garantie. Tu ne vivras donc pas, Macduff, que je puisse dire à la peur au front blême qu'elle est menteuse et dormir, malgré le tonnerre qu'elle est, celui-là qui monte comme la progéniture d'un roi et dont le front d'enfant porte le cercle qui dit le plus haut pouvoir.
Écoute, ne lui dis rien.
Macbeth, elle a trempe et l'orgueil d'un lion, et moque-toi de qui enrage ou s'agite ou conspire. Pour que Macbeth soit vaincu, il faut que le grand bois de Birnam avance contre lui, jusqu'à la crête de Dunsinane.
Ce qui ne sera pas, car qui pourrait enrôler des arbres et leur dire d'extirper du sol leurs racines. Oh, beaux et bons présages. Mais dis-moi encore, mon cœur brûle de savoir une chose. Dis-moi, si ton art y suffit, les enfants de Banco régneront-ils jamais sur ce royaume ?
Cher seigneur, ne voyez là qu'une chose ordinaire, rien d'autre, sauf que cela vient gâter notre fête.
Ce qu'un homme ose, moi je l'ose. Viens à moi, sous l'apparence de l'ours russe le plus farouche, du rhinocéros le plus hérissé, du tigre le plus féroce de l'Hyrcanie, prend toute forme, sauf celle-ci, et mes nerfs rassemblés ne trembleront pas. Ou tiens, revis! Défie-moi au combat à l'épée, jusque sur la lande déserte. Et si je reste ici à trembler de peur, tu pourras me dire une poule mouillée. Va-t'en! Va-t'en! Horrible spectre! Image sans substance!
Noam Morgenstern face au spectre dans Macbeth sur la scène de la Comédie Française. Comment ça se travaille, le rire, dans une scène comme celle-ci, Noam Morgenstern? Vous riez à plusieurs reprises. Hein. Alors, il ne faut pas en faire trop, mais il faut quand même en faire suffisamment. Comment on trouve le bon dosage?
Moi, je ne sais pas, il faut plonger dans la peur et la folie. Et je pense que ça... C'est ce qui... Vous me parlez d'un mécanisme, mais c'est ce qui ouvre le plexus et l'intestin. Le rire, je pense que c'est aussi un... Je pense que c'est aussi là, précisément dans cette scène, une manière de trouver une forme d'amitié avec le spectre pour essayer de ne plus en avoir peur. Et de
d'amitié.
Rire avec lui.
D'amitié, oui, clairement. Même pas de complicité, même pas de rapprochement, d'amitié. C'est très fort,
ouais,
le mot amitié.
Ouais, sans doute, sans doute. Bah, écoutez, je vais m'allonger 10 minutes et puis on va parler un peu plus. Mais oui, je veux dire, conjurer la peur et en même temps la faire sienne, l'admettre. Là, on arrive à un moment, l'extrait que vous avez passé, on est quasiment à la fin des apparitions. Donc, il y a une accoutumance aussi de ces apparitions. Et ça se fait, c'est assez rapide. C'est-à-dire, après la peur, le fait que les apparitions reviennent et s'enchaînent, ça se transforme aussi le rapport que Macbeth tient avec elle. C'est-à-dire tout d'un coup, il se met, ce dont il a eu peur et voulait écarter, tout d'un coup, il se met à discuter avec le spectre de Banquo ou avec ce spectre qui revient, qui ressemble à un enfant, cet enfant qu'il n'a pas. Je veux dire, pour enclencher dans sa tête le fait d'avoir à discuter avec un spectre, c'est qu'il y a un rapprochement, mais c'est là la folie. C'est quand on commence à tenir par la main une chose qui n'existe pas et partir avec elle.
Julie Sica.
Oui, puis dans cette pièce, quand même, ça commence en effet avec deux hommes qui rencontrent des sorcières et qui sont prophétesses. Mais donc finalement, rencontrer des fantômes, leur parler, il y a ça, mais c'est surtout la mauvaise interprétation que Macbeth fait de ses rencontres et des signes qu'on lui donne. Parce que finalement, les signes, c'est pour ça que là, tout s'inscrit dans quelque chose de très clérical, mais parce que finalement, ça aussi, c'est un élevage de signes. Mais donc, on est entouré de signes, de cadres, etc. C'est surtout comment on les interprète, et lui, son erreur surtout, c'est de mal écouter et de mal interpréter.
Sylvia Costa, à la fin de sa préface, Yves Bonnefoy, qui est donc signe la traduction que vous avez choisi de mettre au cœur de votre adaptation, le poète et traducteur Yves Bonnefoy, explique que pour lui, dans Macbeth, Shakespeare a visité un des cercles les plus retirés de la nuit humaine. Est-ce que vous avez voulu aller au plus profond, dans les profondeurs de la nuit humaine?
C'est sûr que j'ai isolé certaines de cette zone et... Pour continuer sur ce que vous êtes en train de dire, sur tout ce que c'est l'interprétation des signes et tout cela, c'est vrai que cette rire de Macbeth arrive là où la surnaturée des images que les sorcières délivrent, elle est si extraordinaire que Macbeth se rassure de s'être fait extraordinaire. En fait, il ne faudrait jamais marcher. Et en fait, cette extraordinarité-là, elle est toujours expliquée. C'est juste que Macbeth n'arrive pas à comprendre l'évidence des choses. Et donc cette confusion de la réalité, c'est quelque chose ça m'a touchée parce que ça pose aussi, comment dire, l'homme, il n'est plus au centre de l'univers, mais la nature manipule avec ses symboles, avec ses constructions, l'homme. Et c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup pour faire plonger l'homme dans cette nuit dont Bonnefoy peut-être... Paris.
Voilà, et on sort effectivement de la salle dans la nuit et avec justement aussi nous spectateurs, cette impression d'avoir été manipulé, d'avoir été ébranlé aussi. Merci beaucoup à tous les trois, Sylvia Costa, Julie Sica et Noam Morgenstern. Macbeth, c'est Salle Richelieu à la Comédie Française jusqu'au 20 juillet. J'ajoute que le spectacle sera diffusé en direct dans plus de 200 salles de cinéma partout en France le 25 avril à 20h10. Et puis dans votre actualité, Noam Morgenstern, vous avez aussi la publication dans quelques semaines, à la fin du mois d'avril, de la Bible. Vous avez mis votre voix au service de textes bibliques, racontez-nous.
Ouais, j'ai enregistré l'intégrale de la Bible Bayard, c'est-à-dire la Bible des écrivains, chapeautée par Frédéric Boyer et traduite par Marine Diaye, Jean Echenoz, Emmanuel Carrère, notamment Jacques Roubaud, poète magnifique. Et un premier tome va sortir qui concerne les grands chants, c'est-à-dire c'est fait avec la musique de Théophile Blancard. Et les grands chants, c'est-à-dire Cantique des Cantiques, les psaumes, Siracides, Sagesse et Lamentation, qui sont les grands textes bibliques retraduits. C'est une traduction qui est sortie il y a une vingtaine d'années. Et donc par des écrivains donc très littéraires, et je psalmodie ces textes-là sur de la musique chamanique, sur de la musique trance. Et comme c'est des longs textes, au bout de trois quarts d'heure, et c'est en binaural, c'est-à-dire en son immersif, au bout de trois quarts d'heure, je pense que les textes sont faits pour ça, on ne sait plus comment on s'appelle, et on se fait totalement happer dans un monde, on perd pied, et on perd son équilibre, et j'ai hâte de voir l'effet que ça fait. On fait un concert le 4 juin aux arènes de Lutèce. On essaye ça en public. Donc le 4 juin au soir aux arènes de Lutèce, je ferai en direct un concert d'un de ces textes que je vais choisir pour mettre en transe le public qui voudra bien venir s'y prêter.
Voilà, et donc en attendant, ça sort donc à la fin du mois aux éditions Bayard. Merci beaucoup.
Merci.
Manu Sissoko qui nous emmène au Mali où s'est ouvert récemment un centre dédié à la sorcellerie africaine. Dans ce lieu hautement mystique, des cours de sorcellerie sont dispensés. Notre reporter Fabien Essiane nous présente cette sorte d'université de la sorcellerie.
Nous sommes dans le centre scientifique de la sorcellerie africaine dans la banlieue est de Bamako, la capitale du Mali. Mamadou Babou Niang est un célèbre marabout qu'on présente même souvent comme étant le pape de la sorcellerie africaine. C'est lui qui est l'initiateur de ce projet mystique.
Tout ce qui a mis l'Afrique en retard, c'est mystifier les choses, cacher les choses. Donc il faut démystifier. Démystifier et transmettre ses secrets. Voilà ce qui m'a donné l'idée de construire ça. Et tous les grands sorciers de l'Afrique vont se retrouver ici pour transmettre les secrets aux futures générations.
Il a financé à hauteur de 500 millions de francs CFA, soit environ 765 000 euros, la construction de cet imposant et mystérieux édifice de 5 étages, 20 chambres, 10 magasins et 10 toilettes. Le tout sur une superficie de 500 mètres carrés. N'entrera donc dans ce bâtiment que les initiés à la sorcellerie, selon l'influenceuse Kabibi Loba.
Tous les gens qui entrent là-bas, c'est des gens soit qui sont déjà sorciers, soit qui veulent l'être, soit qui veulent des pouvoirs, soit qui veulent monter en poste, en grade dans la sorcellerie. Que au moins les choses soient claires. Tu vas apprendre la magie, tu vas apprendre la sorcellerie, tu pars t'inscrire là-bas, tu pars au siège. Ils vont faire des classes où ils vont apprendre officiellement la sorcellerie aux gens. Je ne trouve pas que c'est une mauvaise idée parce que l'Afrique est reconnue comme un continent des sorciers.
Pour son inauguration, les invités qui sont tous des sorciers sont venus des quatre coins de l'Afrique. Madiska Mahamane Mansour vient du Niger.
C'est la première fois que plus de 70 pays se retrouvent pour ensemble célébrer, promouvoir la tradition et la culture africaine.
Et le ministre malien de la Culture, Andogoli Guindo, s'enorgueillit.
Je formule le vœu, le siège du réseau panafricain soit un centre d'incubation des savoirs et savoir-faire endogènes de l'Afrique. Pour qu'à partir de ce siège, germe la graine de la puissance africaine.
Ce centre de la sorcellerie africaine est une université du mysticisme destinée à libérer le potentiel magique de l'Afrique et à affranchir le continent des puissances occultes. Nanangessan Mambé vient de Côte d'Ivoire.
Cela a créé en nous une véritable émotion de joie, de fierté. Un Africain se lève pour dire qu'aujourd'hui, qu'il va lutter pour la sauvegarde de la culture africaine.
Et Mamadou Babou Niang de soutenir Mordicus que la libération du Mali se fera à travers les voies occultes de la sorcellerie africaine.
En tant que chef suprême de la sorcellerie africaine, père de tous les sorciers africains, je déclare solennellement aujourd'hui que la guerre est finie au Mali.
Fabien Essiane pour VMDN. Dans un instant, le journal en français facile sur RFI. On se retrouve demain avec le chanteur Alain Chamfort pour son album L'Impermanence qui s'annonce comme son dernier. Et vous m'en direz des nouvelles.